Salut, tu es sur le podcast de Match Après Match.
Centième épisode de Match Après Match. Quel plaisir de vous retrouver dans mon salon. Trois semaines sans vous, c'était très très long. On a plein de choses à se dire, on a plein de choses à se raconter. On va vers une dernière ligne droite de folie avec plein d'échéances prévues durant ce mois de mai. On est ce soir avec Giacomo, avec Tim, avec Alex. Salut les gars. L'actu chaude brûlante, c'est le 34e titre du Bayern. Ils viennent de le faire, les Bavarois, puisque le Bayer Leverkusen n'a fait que 2-2 contre Freiburg. C'est aussi enfin le premier titre collectif de Harry Kane, ce titre tant attendu. On pourra le dire, on a vécu ça un peu ensemble.
Et on a eu peur jusqu'au bout parce qu'il y avait 2-0 pour Freiburg et à la fin, le Leverkusen était en train de revenir et en cas de victoire, ben, il aurait dû attendre encore Harry Kane. Ça fait quand même plaisir pour lui. Voilà, toutes ces années, il a attendu. Il a toujours été dans la discussion des meilleurs neufs de sa génération quand il était à Tottenham. Maintenant, c'est sa deuxième saison au Bayern. On s'est dit qu'il allait faire le titre dès sa première. Enfin, c'est bon. C'est la fin de cette blague où il disait toujours qu'il n'allait jamais faire de titre, mais c'est plus que mérité pour lui et puis content pour lui.
Ouais, aussi double finaliste de l'Euro. Hein, les deux derniers Euros, il termine finaliste. C'est plus un chat noir.
Non, honnêtement, soulagé pour lui, quoi. Parce que c'est un monstre. Et puis, c'est typiquement le genre de joueur, enfin, attitude irréprochable. Il a jamais, malgré ses échecs à répétition, il a continué à être performant individuellement. Et puis, il a enfin la concrétisation de ses efforts et de tous ses exploits, parce qu'il met 20 goals par année depuis presque 10 ans. Soulagé pour lui, quoi.
Ça m'avait choqué, la conférence de presse, la veille de la finale de l'Euro, puisque tu en parles. Il était là avec son sélectionneur. Première question, Harry, est-ce que demain, sur un plan personnel, la malédiction va être brisée? Et là, il avait répondu, les gars, on est l'Angleterre, on a un trophée à l'échanger, vous me parlez encore de ça?
C'était fou. Mais évidemment, hein, tout le monde lui a posé la question. D'ailleurs, ces images hier sont assez folles parce qu'il est suspendu, il est en tribune, il y a un renversement de situation complètement dingue contre Leipzig qui descend, et puis tu as finalement quand même ce 3-3, et il doit encore attendre finalement. C'est donc chose faite. Vous avez envie, quand vous parle de Super League, évidemment, vous voulez qu'on parle de Servette, vous voulez qu'on parle de Sion, vous voulez qu'on parle de Lausanne, vous voulez même qu'on parle d'Yverdon. Vous avez aussi demandé à ce qu'on parle de Champions League, Dembélé, Donnarumma notamment, mais aussi Yamal. On va essayer de parler de tout ça. Rejoignez-nous sur notre page YouTube, Blue Sport FR. Et puis, si tu nous écoutes en podcast à partir de tous les lundis, on te souhaite la bienvenue. On commence par le match, le gros choc de ce dimanche. C'était au Parc Saint-Jacques. Ça se jouait entre Bâle et Servette. Victoire écrasante des Bâlois. Bâle, je reprends les mots de Carlos Varela au commentaire. Bâle a pris tout ce que Servette lui a donné.
Oui, mais moi, je suis l'homme le plus battu du monde, Dani. Parce que depuis juillet, je dis sur tous les plateaux et j'écris dans tous mes articles que Bâle va être champion depuis le mois de juillet. La cote était élevée et je n'ai pas parié en francs. Donc, je suis l'homme le plus battu du monde, c'est officiel. Je n'ai plus rien à dire sur ce sujet.
Giacomo.
Bon, je pense que le mot aujourd'hui sur ce match, c'est punition. Parce que voilà, Servette était dans le match et puis il y a cette erreur d'Adams. Et tu fais une erreur au Parc Saint-Jacques contre la meilleure équipe du championnat cette année. Tu te fais punir. Tu fermes les yeux, il y a déjà 3-0, c'est terminé. Et puis autrement, ben, voilà, c'était le match qui vient certifier ce que tout le monde attendait, c'est-à-dire que le FC Bâle va être champion. Maintenant, on attend que ça soit mathématiquement officiel. Et à la fin, voilà, je pense que c'est terminé. Si on avait encore quelques doutes, ils ont été balayés cet après-midi où ben, il y a eu quand même un sacré écart entre les deux formations, qui plus est avec un match qui se jouait au Parc Saint-Jacques devant 30 000 personnes.
Ouais, Carlos a dit aussi Bâle a mis une clim sur le championnat. Il y a déjà des réactions sur notre page YouTube. Merci Adams. C'est difficile de le défendre aujourd'hui, soyons francs.
C'est difficile. Après, encore une fois, Bâle arrive au pic de sa forme, au meilleur des moments. C'est leur 7e victoire de suite. Tous les joueurs sont en pleine bourre. Il y a même Ayeti qui revient dans une forme des grands jours. Alors oui, clairement, Adams aujourd'hui, ça fait un peu mal aux yeux parce qu'il non seulement Bâle était dans les bonnes conditions, mais en plus il a accéléré, il a précipité la chute de Servette aujourd'hui. Mmh.
Moi, il y a une chose qui me fait plaisir quand même, c'est qu'il y a quelques semaines, on parlait un peu de leader par défaut, parce que tout le monde se bouffait des points entre eux, je ne vais pas refaire la liste, mais bref, toutes les équipes sous-performent. Là, on a un vrai beau champion. Mmh. C'est-à-dire que Bâle, là, comme tu l'as dit, 7e victoire d'affilée, ils sont en finale de la Coupe, ils méritent amplement d'être champions, ils jouent bien, ils jouent au foot, offensif, attractif, et c'est un beau champion. On peut me dire que la Super League a baissé de niveau, c'est un autre débat, mais c'est un beau champion.
Mmh. Un petit mot sur Shaqiri, peut-être, assez clivant. Je te vois déjà sourire, un peu chez de la tête. Oui, il est clivant, parce que il est fort, il est génial, il est incroyable. Et puis en même temps, il y a cette attitude qui peut aussi un peu déranger.
Pour moi, le cas de Shaqiri, sincèrement, je le mets en parallèle avec le FC Bâle sur ces derniers mois. À savoir que déjà, quand il est arrivé cet été, il a mis un peu de temps à s'installer dans l'équipe. Et après, une fois qu'il était installé, il faisait tout de suite ses stats. Mais moi, je trouvais qu'il avait quand même beaucoup de déchets. Alors, il faisait toujours sa petite passe D à droite, son but à gauche, et il était décisif. À la fin, c'est ça qu'on demande à un Shaqiri en Suisse. Mais moi, je trouvais qu'il avait quand même beaucoup de déchets. Et du même côté, je trouvais le FC Bâle très imparfait. Souvent, ils avaient l'opportunité de prendre la tête, ils ne l'ont pas fait. Défensivement, ils avaient parfois des errements. Et puis maintenant, avec les semaines qui ont avancé, là, il n'y a plus de débat. Ça fait 6 victoires de suite en Super League. Et surtout, à chaque fois qu'ils affrontent un adversaire, encore plus quand c'est à la maison devant les 30 000, ils le prennent à la gorge et on sait que ça va venir. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a cet épisode d'Adams qui débloque le match. Et sans ça, peut-être que ça tient à 0-0, peut-être que Servette prend l'avantage. Mais on sent quand même cette supériorité et on la sent depuis plusieurs semaines. Pareil pour Shaqiri. Enfin, là, c'est trop.
Ouais, mais alors, je ne suis pas d'accord avec toi parce que Shaqiri, il a toujours été comme ça toute sa carrière. Même dans le même mi-temps, il n'est pas constant. Ce n'est pas un mec qui sort ses matchs, qui carbure et tout. Par contre, il est tout le temps décisif. Et pour moi, on a le Shaqiri qui est exceptionnel cette année parce que, moi, je suis d'accord avec toi, le match récemment contre Yverdon, je l'ai vu depuis le stade, il est pas bon dans le jeu. Mais par contre, à la fin, je crois qu'il a 2 buts en assist ou le contraire.
Non, mais... il a c'est un peu le propre de ces joueurs à vocation créative, c'est-à-dire que tu dois leur autoriser un peu plus de liberté et un peu plus de déchets aussi. Donc, je ne pense pas que tu peux juger. Alors, c'est clair que quand Shaqiri est moins décisif, il est pointé du doigt parce qu'il y a plus de ballons perdus, parce qu'il y a plus d'essais, il y a plus de tentatives. Mais quand ça réussit, comme cette saison-là, on voit que c'est extraordinaire. Et puis, les quelques ballons qu'il a perdus, tu les oublies. Quoi.
Il a toujours fait ça. Rappelle-toi, le match contre la Pologne à l'Euro 2016. J'ai revu le match récemment. Il n'est pas exceptionnel, Sheldon Shaqiri, sur ce match. Par contre, il met son ciseau et 10 ans après, on se rappelle que de ça, tu vois.
Tout le monde s'en vient. Hugo dit, je pense qu'il faut être honnête, sans Shaqiri, Bâle ne serait pas champion. Moi, je ne suis pas complètement d'accord avec lui, vous ?
Moi, je trouve qu'il est venu sublimer le travail de Fabio, parce que je trouve qu'on voit maintenant le... Alors oui, effectivement, Shaqiri est au sommet de sa forme, mais je trouve qu'on voit dans le jeu actuellement, on voit enfin les automatismes, on voit que le Bâle, ils imposent le jeu. Défensivement, ils sont solides, ce qui n'était pas forcément le cas un peu en début de saison. C'était toujours un petit peu en dents de scie. Et là, on voit une vraie équipe qui est sublimée par Shaqiri.
Ouais, moi, je tournerais le truc différemment, comme Alex. C'est-à-dire que Fabio Celestini, il a un immense mérite, c'est d'avoir intégré Sheldon Shaqiri. Parce que
pas gagné d'avance. Hein.
Ah, alors, rappelez-vous, début de saison, est-ce qu'on le fait jouer sur l'aile? Est-ce qu'il défend? Est-ce qu'il défend pas? Est-ce qu'il est remplaçant? Est-ce qu'il est titulaire? Il est cramé. On était nombreux à pas le poser, mais à le voir. Enfin, je veux dire, aux États-Unis, on l'a pas invoté, il était cramé aux États-Unis. Et là, il fait un championnat extraordinaire, mais parce que son entraîneur a eu l'intelligence de bien l'intégrer, d'attendre.
De le gérer aussi physiquement, parce qu'il faut savoir qu'au début, il l'a sorti quelques fois à la 60e. Shaqiri n'était pas très content, mais qu'au final, il a pu enchaîner. Je ne sais pas la dernière saison où il a pu enchaîner une vingtaine de matchs dans la même saison, mais je pense que ça fait très longtemps. Mais Fabio Celestini est pour beaucoup contribué à beaucoup.
Parce qu'au début, on disait cadeau empoisonné quand même. Hein. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais on disait cadeau empoisonné au début. Est-ce qu'au final, c'est un cadeau béni, quoi.
Non, mais là, il est vraiment dans son jardin. Là, c'est impressionnant. Quand tu le vois, il est tellement content de jouer. Il est dans un contexte où il fait jouer l'équipe et en même temps, l'équipe, elle joue pour lui. Et comme vous l'avez très bien dit, je pense que Celestini a trouvé la meilleure manière de l'utiliser. Et puis, par rapport à ce que tu disais, est-ce qu'ils font le titre ou est-ce qu'ils font pas le titre? Actuellement, c'est le meilleur collectif avec ou sans Shaqiri. Mais quand tu as un joueur qui est impliqué plus de 50% des buts, je pense, en termes de passes décisives et buts, le doute est permis après avoir qui est-ce qui remplacerait Shaqiri. Mais quand un joueur est tant décisif, c'est clair que si tu l'enlèves numériquement, ça fait une grande différence. En l'occurrence, Bâle peut compter sur ce Shaqiri-là. Et puis, c'est le MVP de la saison.
Mais il est exceptionnel aussi dans les ballons qu'il distribue. Tu as des passes D, oui. Tu en as 20 de ces passes D, mais elles sont plus belles les unes que les autres. Il invente des trucs, mais de dingo. Là, aujourd'hui, il y a cette passe avec le ballon qui roule, qui a un effet, qui arrive pour le but de Traoré.
Traoré, quand il met la semelle.
Voilà, elle est exceptionnelle, cette passe.
J'ai l'impression que tous les ailiers, les joueurs offensifs, dès qu'ils touchent le ballon, ils savent ce qu'il faut faire. Ils se mettent un peu sur les côtés, ils font ces appels vers l'intérieur. Enfin, C'est incroyable, c'est comme si tu avais vraiment un joueur en plus, un joueur qui a une telle aura, qui a une telle qualité technique, que quand il touche le ballon, tu sais que tu peux avoir une énorme occasion dans les secondes qui suivent. Et puis maintenant, évidemment, il y a ces automatismes, tous les ailiers, tous les joueurs offensifs, ils savent quel appel faire dès que Shaqiri va recevoir le ballon. Et voilà, quand il y a une telle efficacité, franchement, c'est beau à voir, il n'y a pas à dire.
Il a des excellents automatismes avec ses coéquipiers, avec les arbitres aussi, j'adore. Il perd le ballon, il lève la main, il y a faute.
Ouais. Alors ça, j'aimerais justement qu'on en parle. On va parler de Servette, hein. Évidemment, il y a plein de gens, il y a même des blagues assez marrantes. Servette a engagé Kev Adams, nous dit Le Vert. J'aime beaucoup. Oui, je suis d'accord avec toi, Tim. Il a ce côté un peu surprotégé, moi, je trouve. Il lève la main, il sait de gagner des fautes. Voilà, c'est parce que c'est Shaqiri. Moi, je ne suis pas sûr que les arbitres siffleraient à chaque fois si ce n'était pas Shaqiri.
Ouais, il l'a mérité, il a un petit bagnet, ça.
Ouais, il a la même protection que les Alex Frey et Strehler avaient un peu à l'époque. Donc il a gagné ce statut. C'est son mérite aussi de parvenir à, par un peu son attitude aussi.
C'était chiant de jouer contre ce genre de joueur-là ?
Non, mais alors on savait que si tu vas jouer à Saint-Jacques et puis qu'il y a une légère faute dans les 16 mètres, tu sais qu'avec la pression de la Mountain Scourvet plus les internationaux qui étaient Frey, Strehler, Stöcker à l'époque, et ben tu sais que l'arbitre sous la pression il sifflait plus facilement, ça c'est clair.
C'est Serredier qui m'a raconté une fois que tu venais d'arriver à Sion, il m'a dit tu vois à Sion si je fais une faute je tire le maillot j'ai tout de suite jaune. J'avais plus l'habitude parce qu'à Bâle la quatrième fois l'arbitre venait disait c'est la dernière.
Ouais. je te crois volontiers. Allez on avance un petit peu. Vincent Rigolet et Carlos Varela nous ont attendus, ils sont au parc Saint-Jacques, ils nous proposent le débrief de cette rencontre directement depuis Bâle.
Bah oui, Dani, c'était le match de l'année. Il y a une équipe qui était là et l'autre qui n'était pas vraiment là, Carlos.
Non, alors les deux étaient là et c'est vrai que le résultat est un peu cruel pour moi, pour Servette, parce qu'après les 5 premières minutes, ils ont réussi à revenir peu à peu territorialement dans le camp balois. Puis après, il y a eu des erreurs. Les erreurs ont été trop cruelles aujourd'hui, impossible pour une équipe de se relever après. Je répète, 3 grosses erreurs d'Adams, faut appeler par le nom du fautif aujourd'hui. Et après, malgré tout, ils reviennent à 3-1 dans le désespoir, puis après, voilà, 5-1. Mais Servette, pour moi, n'a pas raté son rendez-vous, mais était impuissant face à ces erreurs qui ont coûté 3 buts en 10 minutes.
On va revenir sur Bâle, on va rester sur Servette, t'en parles. On parle d'Adams, on a parlé de la blessure de Steve Rouillet. On pensait que ça allait peser lourd dans la balance. Bah, la preuve, ça a vraiment pesé lourd.
Oui, parce qu'on parle de, si ce n'est du meilleur défenseur central de la Ligue. Et puis, dans ce match-là, son remplaçant, entre guillemets, passe à côté. Donc, évidemment qu'après, on est obligé de penser à Steve Rouillet. Ça fait mal, c'est le match qu'il ne fallait pas que ça arrive, ça arrivait. Mais clairement, cette blessure a été un énorme coup dur pour Servette.
Maintenant, Servette doit aussi se remettre de ça. Parce que 5-1, ça fait mal. Tu as IB la semaine qui vient. Et toujours un super ticket européen à aller chercher. Parce qu'il y a toujours cet objectif-là quand même.
Non, c'est clair. Alors, eux, c'était l'espoir pour tous suiveurs de la Super League de relancer ce championnat. Eh ben, c'est beau. Parce que c'est eux, ça dépendait d'eux quand même. Ils n'ont pas réussi aujourd'hui. Bâle va être champion suisse. Puis après, le reste, tout reste ouvert. Ça va pas les... Je ne pense pas que ça va les débousseler ce 5-1. Parce que c'était, entre guillemets, une finalissima pour aller chercher le titre. Ils ont clairement les moyens de finir dauphin de Bâle ou en tout cas au minimum européen.
C'est pas fait mathématiquement pour Bâle, mais bon, on va pas, on va pas raison, se cacher. Ouais. On entend le public qui chante Bâle champion suisse. Il y a certainement Bâle va être champion suisse. Et c'est un beau champion, franchement. C'est
oui.
Pas un beau champion.
Oui, non, c'est un beau champion. Déjà, la ville attend ça depuis 7 ans. Pour eux, c'est une éternité. Et je sais ce que ça représente d'être champion ici. Et ils sont meilleurs que les autres, en fait. Mais je pense que ce n'est pas une performance qui mériterait un titre dans... Voilà, si IB était au rendez-vous, si Servette n'aurait pas égaré des points à gauche, à droite. Mais voilà, ils n'ont rien volé, c'est clair. Et puis leur goal average part pour eux, c'est... Ils ne pardonnent pas, ils font mal. Et puis c'est aussi une grande qualité de Bâle, de profiter de toutes les erreurs des adversaires. Et c'est vrai que quand on regarde la concurrence, c'est les meilleurs. Donc bravo, ouais.
Bon, tu parles de performances, alors pas exceptionnelles, il y en a un qui fait des performances exceptionnelles. Alors oui, il a un comportement qui parfois t'énerve, on l'a entendu pendant le commentaire, mais Shadan Shaqiri, aujourd'hui, c'est de nouveau un but, 3 assists.
Ouais.
Je sors l'affiche parce qu'il est à 11 implications de but sur les 4 derniers matchs, 15 buts, 20 assists depuis son arrivée, c'est phénoménal, franchement.
Voilà, t'as tout dit, c'est c'est le match winner aujourd'hui. Je pense que ce sera le match winner du titre. Ce sera pour tout le monde ici, celui qui a ramené le titre à la maison. Et oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses qui peut biffer, mais il était à la rue quand même aux États-Unis. Et moi, je trouve que bravo à lui. Il fait des gestes inutiles, un peu par rapport à l'adversaire, un peu arrogant. Beaucoup ici même le valide. Hein, que, voilà, il va voler, quoi. Il va plus mettre les deux pieds sur terre après le titre. Mais ça montre aussi malgré tout que t'étais physiquement pas au niveau. Il court pas beaucoup. Et il a ces stats-là. Est-ce qu'il faut pas s'alarmer sur le niveau du championnat suisse actuellement? Ibé n'a pas fait une bonne saison au niveau sportif. En Coupe d'Europe, on perd une de long une place par rapport à l'année, enfin, aux années suivantes. On a une équipe en Europe. Le fait qu'il puisse briller comme ça, ça doit un peu alarmer les autres. Après, lui, il ne se gêne pas. Et son pied aujourd'hui, magique. Moi, j'ai beaucoup dépendu de ces joueurs-là au milieu. C'est vrai que courir et le ballon arrive en pleine course, tu n'as plus qu'à la pousser. Voilà, c'est pour moi, c'est sa saison et ça va être le MVP pour tout le monde.
On a parlé de Shaqiri, on va dire un mot aussi de Fabio Celestini et de son travail. Critiqué il n'y a pas si longtemps, on parlait d'un possible licenciement et là, il est sur la route d'amener balle vers un doublé.
Ouais, j'ai pas compris. C'est vrai qu'il y a eu cette rumeur licenciement. Moi, ce que je remarque, c'est qu'au début, il ne validait pas trop Shaqiri. Ça, c'est mon avis personnel et je pense que lui aime tellement les joueurs qui écoutent ce qu'ils font. Et puis peut-être ça dérange un joueur qui fait un peu ce qu'il veut. Par contre, je vois que tous les autres, ils reviennent tous en avant, en arrière, ils travaillent tous, ils sont solidaires, ils savent sûrement ce qu'ils peuvent et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et ça, c'est bravo Fabio Celestini, parce que je trouve que l'attitude de balle dans le collectif, de travailler les uns pour les autres, ça, c'est lui qui l'a imposé. Ça, c'est lui qui a amené ce changement. Et après, quand même, les actions qu'ils font, plus 44 de goal average, c'est quand même assez huilé dans les phases où il faut faire mal.
Ouais, 77 buts marqués, 33 encaissés, 44 de goal, plus 44 de goal average et un FC Bâle, on le dit pas officiellement champion, mais tout bientôt champion, Dany.
Mais oui, absolument, tout bientôt champion. On va parler un petit moment du Servette FC. Plusieurs d'entre vous nous posent la question, est-ce que Servette doit craindre de perdre sa deuxième place? Tim?
Craindre, oui, mais ils ont tout pour y arriver. Je rappelle, l'objectif du début de saison, il avait été fixé par René Weiler, c'est faire mieux que l'année passée. C'est-à-dire troisième et gagner la Coupe. S'ils font deuxième et puis qu'ils jouent la Champions, ils auront fait mieux. Ils n'auront pas fait une grande saison. Hein. Ça n'aura pas été parfait dans le jeu. Je veux dire, moi, je n'ai pas vu un Servette flamboyant, mais s'ils font deuxième, la saison sera réussie quand même.
Qu'est-ce qui s'est passé au cours de cette saison, Alex? Parce que Servette a été très régulier et puis a été très dépendant de Derek Kutesa. On l'a souvent dit. Et j'ai l'impression que depuis que Derek est un peu moins bien, Servette a aussi un petit peu été moins bien.
Oui, Servette a prétendu à un moment donné, quand même, avec au même titre que Lugano, jouer le titre jusqu'au bout. Moi, je voyais Lugano très très bien cette année aussi. Ensuite, ils ont eu leur baisse de forme. C'était assez impressionnant. Et c'est vrai que Servette, cette année, comme l'année passée, à chaque fois qu'ils ont pu mettre l'équipe un peu plus loin derrière, dès qu'ils ont pu prendre l'avantage au classement, ils n'ont pas réussi à le faire, ils n'ont pas réussi à planter le clou. Et ça devient un peu récurrent, c'était déjà le cas l'année passée. Je pense que la baisse de forme de Kutesa, elle a été très importante pour ça.
Question pour toi, Giacomo. Question de Tibert de Goat Bridge. Alors, c'est évidemment pas Tibert le nôtre, Tibert Pont, évidemment. Les joueurs de Servette en autopilote toute la saison, à féliciter. Eberly, non merci. C'est pas une question, c'est une affirmation. Patate chaude pour toi. Merci.
C'est une critique plutôt qu'une question. Écoute, par rapport à ce que disait Tim, c'est vrai qu'on n'a pas eu un Servette particulièrement flamboyant. Après, il faut quand même pas être trop dans la culture de l'instant et se rappeler qu'il y a 4-5 semaines, on avait un Servette qui était au coude à coude avec Bâle, avec Lugano, pour aller chercher le titre. Et si à ce moment-là, Servette, ils avaient fait justement ce petit gap qui manque depuis quelques saisons, parce que l'histoire de cette saison de Servette, je trouve qu'elle ressemble aussi pas mal à la dernière et à celle d'avant. C'est-à-dire qu'on a un moment Servette qui rentre dans la discussion des meilleures équipes de notre pays. C'est vrai qu'on s'est peut-être moins amusé en tant que spectateur neutre, en tant que supporter servettien au stade que peut-être sous Alain Gaiguerre, que peut-être même l'année passée sous René Weiler. On rappelle au début ce qui était dit de René Weiler. Hein. Ses premiers mois, on disait « Ah, maintenant, on balance, on passe plus par le milieu. » Et puis, à la fin, il a gagné la Coupe. C'était un génie. Dommage, il reste pas. Il est directeur sportif. Donc, bon, je pense que Eberly, il n'a pas trop pris de risques pour sa première saison. Il a fait un peu dans la continuité. Il faudrait être plus exigeant avec lui pour la deuxième année, surtout que de ce que j'ai compris, il va rester.
Ouais, alors c'est clair. Il l'a dit ce matin. Et puis, il y a une chose quand même. Sur la qualité de jeu, moi j'y reviens. Au début de l'année 2025, il y a 4 nuls et 4 victoires. de suite. Donc Servette ne perd pas. Mais Servette joue tellement mal qu'il n'y a pas de certitude, en fait. Et on arrive à ce fameux match contre Yverdon que tu évoquais, Alex, où Servette peut prendre 5 points d'avance sur balle et joue, là, pour le coup, n'a pas de réussite, joue mal, comme il le faisait depuis le début, et perd contre Yverdon parce qu'il ne développe pas de jeu, en fait, pas assez. Et du coup, bah, même contre une équipe comme Yverdon, qui est en bas de classement, tu n'arrives pas à les battre, quoi.
Mais c'est vrai que je pense que la qualification européenne est importante pour Servette, et je pense que ça a été dit dernièrement, pour pouvoir continuer à développer le club. Je pense que maintenant, après ces 2-3 ans d'expérience, à rater le coche pour pas grand-chose, pour une série de matchs ou peut-être un banc pas assez profond, qu'on a vu aujourd'hui avec le cas Adams, c'est justement d'aller cibler 3-4 transferts, d'avoir l'assise financière pour pouvoir se permettre des transferts qui vraiment... solidifie ton équipe, elle lui permettre de pouvoir viser le titre, mais vraiment officiellement.
Mais moi, j'irais même plus loin. C'est pas la profondeur de banc. Enfin, oui, la profondeur de banc manque, mais il manque des leaders. Parce que quand t'as plus Steve Rouillet derrière, t'as plus ton leader en défense. Quand t'as pas un Derek Koutessa en forme, il te manque ce leader au milieu et il te manque toujours ce joueur, ce buteur devant capable de te mettre 10, 12, 15 buts.
Pas d'accord avec toi. Les leaders, tu les as. T'as Jérémy Frick, Steve Rouillet.
Mais il est pas là. Non, mais ouais, il est pas là. D'accord. Quand il est pas là.
Non, mais t'en as assez. Oui, mais oui, non, mais
si Frick n'est
blessés.
Pas là, si Rouillet... Aujourd'hui, non, t'as qui comme leader mais, c'est qui tes leaders aujourd'hui?
Timothée Cogna, par exemple. Ouais, okay. T'as Enzo Crivelli qui est en leader de l'attitude et tout. Et oui, bah si t'as
mais 7... Il te manque ton gardien leader et il te manque ton patron de la défense. Non, c'est déjà beaucoup.
Oui, mais si t'as des blessés, je suis d'accord. Mais de la construction du contingent, pour moi, les leaders, t'en avais assez. Ce que t'avais pas assez, pour moi, c'est de la profondeur de banc, ça c'est une chose. Et maintenant, il faut passer à la suite. Parce que si tu allais chercher le titre, ils arrivent quand même. Tu joues Timo tous sur la fin.
Il te reste plus beaucoup de temps. Parce d'accord. que ton socle, tu l'as. Ton socle, tu l'as à chaque ligne. T'as ces 2-3 joueurs. On sait que c'est des valeurs sûres. On sait que dans le championnat suisse, à Servette, ils réussissent dans ce contexte. Et maintenant, ben, il te manque peut-être, voilà, ça a beaucoup parlé cet hiver de ce fameux Kevin Carlos. Finalement, c'est balle qu'il allait chercher. Un peu tout le monde le voulait.
Cet été.
Pas cet hiver. Kevin Carlos, il est passé à balle. Et je pense que voilà, il faut profiter en fait de cette qualité que Servette a, qui lui permet d'avoir les résultats qu'ils ont depuis maintenant plusieurs saisons, avec cette troisième place cette année, une deuxième, une troisième place, on le verra. Il y a eu la victoire en coupe, et puis comme Tim l'a très bien dit, ben, les Cogna, les Rouillet, les Stevanovic, Crivelli qui sera plus là l'année prochaine, ben, ils ont peut-être encore une saison, peut-être encore deux saisons au top.
Maximum, ouais.
Et c'est pour ça que si on veut profiter de cette qualité de Servette, avant qu'il y ait un vrai renouvellement, après il faudra voir ce qui arrive de l'académie, bah, c'est peut-être maintenant qu'il faut faire ce petit effort, après à voir quelles sont les ambitions du club.
Après, ce qui est dangereux aussi, c'est de dépendre de ces joueurs-là, en fait.
C'est malheureusement. Hein.
Ça devrait pas l'être à ce point-là. Ça devrait pas. Enfin, je veux dire, la mauvaise passe de Derek Koutessa, elle doit pas avoir autant d'impact sur la saison de Servette. Il doit pouvoir y avoir des joueurs qui peuvent se mettre, qui à ce moment-là de la saison brillent ou se mettent plus en avant, mais ça peut pas précipiter comme ça ou faire stagner Servette sur plus de 3-4 mois. Et pour moi, justement, ça se repose trop sur des individualités et le projet de jeu, il est peut-être pas si clair que ça.
La grande différence avec Bâle, c'est que quand Kevin Carlos était moins bien, Ayeti. Quand les ailiers étaient moins bien, il y a Benny Traoré, là, au moment de passage à vide. Là, tu mets Cadet, tu mets Sotichek, tu mets Otele. Il y avait beaucoup plus de profondeur à balle. La différence, elle est là. Et c'est là où je ne te rejoins pas. La différence, pour moi, elle n'est pas chez les cadres. Il y en a même peut-être plus à Servette des leaders qu'à balle. C'est vraiment sur l'effectif.
Mais par contre, justement, à balle, et j'ai pu travailler avec Fabio, donc je sais comment il travaille. Je sais, je sais les principes qu'il essaye d'amener, les principes de jeu. Et ces principes-là, je ne les vois pas à Genève. Je vois que ça se repose beaucoup sur Stevanovic, Cogna, qui sont des joueurs extraordinaires. Mais quand ça va moins bien, on peut moins se baser sur les principes comme peut le faire Bâle actuellement. Quand ça tourne comme ça, je trouve ça fort.
Ça répond un petit peu à la question, du coup. On est assez d'accord avec cette autogestion, sans vraiment le dire. On en attend plus quand même de Thomas Eberli pour tirer le profit de ce groupe. Et puis, avoir aussi maintenant... plus haut, si ça s'active, pour amener ces 2-3 joueurs qui peuvent te faire passer encore un cap de plus.
Après, musique d'avenir, vas-y.
Je vais le défendre juste sur un point. Il a quand même essayé des fois de sortir Derek Koutessa et tout, mais il n'avait pas les joueurs derrière. Kylian Varela, c'est en espoir, mais il est encore trop jeune, Ouattara. Il a quand même essayé de temps en temps de le faire, tu vois, quitte à surprendre.
Et puis moi, un dernier truc aussi, il y a Antunes qui a aussi pas mal manqué pendant la saison, et ça a fait que Timothée Cogna a peut-être parfois dû jouer plus haut. Moi, je pense que ça aussi, évidemment, on ne peut peut-être pas encore lui donner le poids qu'on donne à un Timothée Cogna, qu'on donne à un Derek Koutessa, qu'un Steve Rouillet dans dans le système Servette. Je pense que l'absence d'Antunes, surtout dans cette saison qui était peut-être celle de la confirmation, elle a pesé peut-être plus que ce qu'on pense.
Ouais, pas de chance hein, pour Antunes. Et puis il reste cette éternelle question ou problématique de l'attaquant, de l'avant-centre qui marque pas en fait, qui n'est pas là. On n'a pas un mec qui te marque 12 buts par saison. Donc faudra aussi
une petite pièce sur Alunendoy. Je pense qu'il est pas si mal. Et il a fallu 6 mois là pour s'intégrer. Lui, je le condamne pas tout de suite.
On va pas le condamner, mais ce sera pas la seule et unique solution. Il faudra aller chercher quelqu'un cet été. Si Crivelli, enfin vu que Crivelli s'en va,
part aussi.
Guimeneau justement
devrait partir.
Donc il faudra quand même aller trouver ce numéro 9 là. Faut qu'on avance. Beaucoup de gens qui nous demandent de parler d'Yverdon parce que évidemment Yverdon n'a pas joué. On voulait en discuter, mais il y a pas mal de questions en lien avec ce match qui a été repoussé, qui a pas pu se jouer à cause de la pluie. On est avec Mathias Froidevaux qui nous a fait un petit point au milieu de l'après-midi. On vous propose cette petite intervention de Mathias et de Anthony Sautier.
Alors le match entre Yverdon et Saint-Gall ne se jouera pas. Si vous vous demandez pourquoi, bien regardez tout simplement avec le ballon. Ça ne serait pas allé beaucoup plus loin que ça. On se retrouve avec Anthony Sautier au bord du terrain, les flaques. Anthony Sautier, vous étiez prêt à Yverdon pour jouer ce match, match important, premier match du Relegation Group. C'est compliqué de voir ce match reporté.
On était prêt, oui. On s'est préparé pour, en tout cas cette semaine. On avait bien bossé. Puis voilà, les aléas un peu de la pluie, là, il pleut beaucoup. Ça ne s'arrête pas depuis, je sais pas, peut-être 2 heures maintenant. Et on voit le terrain, il est malheureusement impraticable. Et voilà, c'est les aléas du football, comme je l'ai dit. Maintenant, il faudra se préparer. On ne sait toujours pas quand on va jouer. Peut-être demain, peut-être mardi, peut-être mercredi. Voilà, il y a un peu de suspense, mais voilà, malheureusement, on était prêts. Et le plus dur maintenant, c'est de ne pas savoir quand on va jouer parce qu'on voulait absolument jouer ce match pour faire des points, quoi, tout simplement.
Absolument jouer ce match. Et puis, il va falloir jouer cette semaine parce qu'après, il y a des semaines anglaises. Vous allez devoir enchaîner les performances. Ça aussi, ce sera un peu plus compliqué à appréhender.
Ouais, c'est vrai, il y a des semaines anglaises qui arrivent et c'est pour ça qu'il me semble que Yverdon avec Saint-Gall ont demandé pour jouer potentiellement demain ou mardi, parce que si maintenant on joue mercredi, on rejoue samedi ici contre Sion, ça va faire que des semaines anglaises jusqu'à la fin, donc c'est pas facile pour les organismes. Mais malheureusement, si on n'a pas le choix, on va le faire, mais si on peut éviter ça, ça serait meilleur.
On n'assiste pas souvent à ce genre de déluge. Effectivement, vous étiez prêt, vous l'avez dit, un mot sur l'état d'esprit du groupe avant ce relegation group, avant ces 5 matchs et 5 finales. Finalement, on a le sentiment que la famille Yverdon s'est ressoudée pour ces 5 matchs.
Ouais, ressoudée, je ne veux pas dire ça, parce qu'on a toujours été soudés, même si à Bâle, on est passé à côté de notre match, tout simplement. Et Bâle, on l'a vu, c'est une équipe qui est au-dessus. Mais voilà, le groupe est toujours bon. On a vraiment un bon groupe, heureusement d'ailleurs, parce que je pense que si on avait un groupe moyen voire mauvais, je pense qu'on s'engueulerait tous les jours et on n'aurait pas envie de faire des points. Mais là, c'est tout le contraire. On s'était bien préparé, comme je l'ai dit au début de l'interview. On était vraiment prêt à se battre sur n'importe quel ballon. Mais on sera de toute façon prêt également à se battre sur chaque ballon quand le match sera. Quand on saura la date du match.
On va attendre que les instances de la Ligue décident de ce match. Il pleut à Yverdon, il va encore pleuvoir et on va définir quand ce match aura lieu. On souhaite bonne chance à Yverdon, forcément pour ces 5 dernières parties.
Et pour le moment, juste avant 20h dimanche, on n'a toujours pas de nouvelles quant à une nouvelle date. Question sur YouTube, est-ce que l'enchaînement maintenant des semaines anglaises pour Yverdon va être un handicap ?
Moi, je pense que surtout le renvoi d'aujourd'hui, ça les aide pas. Je compare ça un peu à une séance de pénalty. C'est toujours mieux de tirer en premier. On a vu Winterthur gagner, Sion gagner. Et là, Winterthur qui voit ses adversaires directs se rapprocher sans pouvoir jouer. En plus, après, ils vont devoir jouer des matchs l'un plus près de l'autre, à voir quand sera refixé ce match contre Saint-Gall. Surtout considérant qu'ils traînent quand même cette mauvaise dynamique de 2 points sur les 5 derniers matchs, les Yverdonois. Donc, je pense que c'est pas forcément une bonne nouvelle, ce renvoi.
Tu vois, moi, de la voiture, revenant, je me disais, c'est une bonne nouvelle pour Yverdon. Saint-Gall, ils vont devoir revenir en semaine, déjà sans leurs supporters, qui vont pouvoir faire 2 fois l'aller-retour, traverser le pays. Ça va les saouler, ils sont déjà sauvés, Saint-Gall. Je pense qu'ils vont encore plus prendre ce match à la légère de revenir en mardi ou mercredi à Yverdon, à mon avis.
Bon, t'étais dans la voiture parce que t'étais à Sion, oui. T'étais à Tourbillon, t'es un grand pro team. Du coup, on va parler un petit peu de cette victoire de Sion contre Zurich. C'était en tout cas un match à ne pas perdre. Sion a fait encore mieux.
Ah, moi, j'avais une théorie, c'était que si Sion perdait aujourd'hui, ils étaient derniers. Ça, c'était ma théorie. Ça aurait été le début de la crise, ça serait enclenché, ça aurait été le feu partout. Pour moi, là, c'est la victoire qui va les sauver. Déjà, parce que c'est une victoire qui était acquise avec solidarité. Alors, on a vu quand même, hein, je reviens sur Saint-Gall, c'est Zurich qui a joué. mais qui ne s'est pas arraché non plus. Ouais. Enfin, je veux dire, on a bien senti que Zurich est complètement au roue libre. Ça ne veut pas dire que Sion n'a pas mérité sa victoire. Moi, ce que j'ai bien aimé, en une phrase, c'est que la victoire, elle était acquise avec des joueurs qui étaient là en Challenge League. Dejan Sorgic, Théo Berdaïes, je l'ai toujours dit, je l'assume, je l'ai dit en conférence de presse après le match, Théo Berdaïes et Dejan Sorgic, ce n'est pas des top joueurs de Super League, mais c'est des joueurs dont tu as besoin de des moments compliqués, de des moments comme ça, que ce soit eux qui répondent 13 ans, ça me fait plaisir.
Ouais, c'est des gratteurs, c'est des immenses gratteurs. On a beaucoup aimé la première mi-temps. Mm-hmm. C'était une très bonne première mi-temps de Sion. La deuxième mi-temps, on a vu un peu toutes sortes de commentaires. Parce que Sion n'a pas été bon en deuxième mi-temps. Moi, j'ai plutôt vu justement une équipe courageuse qui a accepté d'aller au bout d'elle-même. Et c'est ce qu'il faut quand on veut se sauver.
Ouais, alors je trouve que c'est un scénario qu'on a quand même pas mal vu cette saison à Sion. C'est qu'en général, ils sont assez bons en première mi-temps, ils sont au niveau, ils développent du jeu, s'ils arrivent à marquer, ensuite ils reculent un peu, ils paniquent un petit peu. Et je pense que Sion, en tout cas les joueurs, vont être très très soulagés de terminer cette saison sauvés, parce que c'est vrai qu'ils ont l'air un petit peu usés. En deuxième mi-temps, ils ont subi bien. Avec, alors, ils courent, ils font les efforts, il y a de la solidarité, ça se voit. Depuis le début de la saison, c'est une équipe vraiment. Par contre, tu vois qu'ils paniquent un peu, ils n'arrivent plus à remonter le bloc. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est un gros soulagement. Ouais, je les sens un peu fatigués quand même, mentalement.
Ouais, ils sont cramés. Il faut appeler un chat un chat, comme dirait Carlos Varela. Ils ont reculé ou ils n'arrivaient pas
à remonter, ou alors il n'y avait pas les consignes. Alors, je n'ai pas vu, peut-être toi, tu étais au stade, ce qu'étaient les consignes de Tolo. Mais c'est clair qu'il y avait... chaque fois que ça dégageait le ballon, il n'y avait personne qui était capable de la tenir devant, et puis il n'y a personne qui poussait pour remonter ce bloc. Quoi.
Didier Tolo l'a dit en conférence de presse, le plan de jeu, c'était clair, c'était on laisse le ballon à Zurich et on leur fait mal avec des ballons derrière la défense. Ouais. Voilà, mais je pense qu'il aurait aimé leur faire plus mal en deuxième mi-temps. On voit qu'ils sont fatigués mentalement et physiquement.
Ouais, c'est long de défendre 45 minutes sur tes 16 mètres comme ça, à subir, c'est fatigant. Donc c'est clair que ça fait du bien aussi de pouvoir remonter le bloc 2-3 fois, d'aller s'installer, d'obtenir quelques corners, ce qu'ils n'ont pas vraiment réussi à faire.
Question sur YouTube, est-ce que vous pensez que Sion s'est sauvé avec cette victoire ?
Quasiment, ouais, quasiment. Pour moi, la victoire d'aujourd'hui, c'est vraiment si je devais décider une victoire dans le relegation group, j'aurais fait ça. T'es à la maison, tu marques tôt, ensuite t'es capable de faire le dos rond. En plus, t'as la pression avant le match parce que t'as vu quand même Winterthur gagner et revenir à 3 points de toi. Et c'est vraiment ce qu'on demande en fait dans ce relegation group. Je pense que Tolo, tu me diras, Tim, à la conférence de presse, mais il devait être vraiment fier de ses gars sans avoir eu un jeu flamboyant, parce que c'est pas ça qu'on veut maintenant. Maintenant, on veut vraiment la prestation, et ils ont réussi à faire ce premier pas en marquant très tôt, et derrière, en deuxième mi-temps, ils ont eu cette réussite que peut-être t'as pas à d'autres moments de la saison, mais justement, c'est maintenant que tu dois l'avoir, et si on l'a eu, et ça, c'est un très très bon signe pour les 4 matchs restants, j'étais assez confiant pour les Valaisans, j'aurais certainement pas eu le même discours s'ils avaient perdu, comme Tim disait, je sais pas si je les condamnais déjà, mais avec cette victoire aujourd'hui à la maison, je le suis encore plus.
Bon, tu parlais de Didier Tolo, on a Daniel Burkhalter qui était sur place à Tourbillon, il était justement avec le coach du UFC Sion, il nous a envoyé ceci à la fin de la rencontre.
Alors la rencontre vient de se terminer ici à Sion, on est en compagnie de Steve Guillot et d'un homme certainement heureux, Didier Tolo, elle fait du bien celle-là.
Oui, elle était très importante, elle est primordiale, même si je pense qu'on, dans l'état d'esprit, on était vraiment, vraiment, vraiment là, mais je pense qu'on peut aussi se la rendre la victoire un peu plus facile. C'est à l'image un peu de la saison où on a des temps qui sont, pour moi, primordiales et on se met un peu en difficulté.
Didier, vous ouvrez la marque très vite. On sent que le FC Zurich derrière a un peu de peine. Pourtant, vous reculez, vous laissez la balle à Zurich. C'était une consigne ?
Ouais, depuis un an, on n'est jamais meilleur que quand on est bloc un peu bas, un peu mi-terrain, qu'on puisse contrer. On sait que cette équipe de Zurich voulait gagner, était venue pour jouer offensivement. Donc on savait qu'on aurait de la place dans le dos. On a de nombreuses situations en première mi-temps. Si on fait la bonne dernière passe, on se retrouve un contre un contre le gardien. On ne le fait pas. Donc oui, c'était un plan de jeu. Ouais.
Steve, tu as dit plusieurs fois au commentaire que la meilleure défense était peut-être l'attaque. Tu as été surpris que Sion joue comme ça ?
Disons que de voir le FC Sion marquer aussi vite, Je ne sais pas si c'était dans les plans du coach, mais je pense que cette ouverture de la marque, elle change beaucoup de choses pour vous sur l'ensemble du match.
Psychologiquement, elle fait du bien à tous les joueurs. Elle est très importante parce que on sort d'une période qui est pas facile. Donc elle fait du bien, mais on doit rentrer à la mi-temps à 2-0. C'est impossible. On mène 2-0 à 5 minutes de la mi-temps et on prend un contre chez nous. Donc ça c'est le béaba du football. Donc voilà, j'ai élever la voix à la mi-temps parce que ça c'est pas possible, et puis en deuxième mi-temps on doit mettre le troisième qui plie le match, donc on se fait peur jusqu'au bout. Mais c'est à l'image un peu de la saison où on a pris des buts dans les dernières minutes, où on a pris des buts dans nos temps forts. Voilà, d'aujourd'hui on apprend, mais il faudrait qu'on apprenne un peu plus vite.
Moi, je voulais vous féliciter, Didier, pour cette victoire. Et on parle souvent des joueurs, mais là, j'aimerais parler de votre travail. Vous avez fait un choix tactique en partant en 4-4-2 avec deux attaquants axiaux, en mettant du monde dans les couloirs pour empêcher cette vitesse du côté de Zurich. Et puis, vous terminez aussi le match avec cinq défenseurs. Je crois que vous avez vraiment eu une influence aujourd'hui par votre coaching sur la victoire du FC Sion.
Ouais, quand on gagne, c'est plus facile de dire ça. Il y a des moments où on fait pas forcément toujours les bons choix, mais on reculait trop en deuxième mi-temps à la fin. Donc Barba était souvent pris de vitesse. Donc je voulais amener quelqu'un plus dans l'axe parce que je savais qu'ils allaient amener du nombre. Ils avaient égalisé contre, je crois que c'est Zurich comme ça ou contre Getse. Ils mettent deux buts comme ça. Donc voilà, c'était le plan de jeu. Mais sur la première mi-temps, le but est de pas subir d'essayer de proposer du jeu. Ça veut pas dire que parce que vous n'allez pas presser dans les 18 mètres adverses que vous proposez pas du jeu. Nous, notre équipe elle est constituée comme ça. Et je pense qu'on essaye de tirer le maximum de nos joueurs.
Pour ma part, j'ai une dernière question, Didier. Est-ce que vous êtes d'accord si on vous dit qu'en première mi-temps la victoire du FC Sion était amplement méritée? Vous avez ces deux goals, en plus il y a la transversale Miranchuk. Et puis, peut-être que la victoire, elle est plus heureuse sur la deuxième mi-temps, ou peut-être Zurich aurait pu égaliser.
Je pense que la victoire sur la première mi-temps est plutôt tactique, parce qu'on a très très bien joué les coups et qu'on aurait pu gagner cette première mi-temps plus largement. Et je pense que la deuxième mi-temps est plus sur le courage, sur l'abnégation, sur les valeurs de ce groupe qui n'a rien lâché. Mais oui, Zurich a beaucoup mieux joué que nous en deuxième mi-temps.
Didier, vous restiez sur une dynamique pas très positive sur les derniers matchs. Aujourd'hui, au-delà des 3 points, c'est quoi votre plus grand motif de satisfaction?
Le plus important, c'est les 3 points. Non, mais j'ai toujours dit que la vie, elle réserve pas forcément que des bonnes choses. Et quand tu es dans une période difficile, que ça soit en football ou dans ta vie personnelle ou dans la vie de tous les jours, il y a pas que des moments faciles. Faut avoir le cran, faut avoir le courage d'accepter ça et de faire face. Et je suis content parce que mes joueurs ont fait face ce soir, même s'ils n'ont pas tout réussi. Je suis pas senti des joueurs traumatisés. Je suis pas senti des joueurs qui osaient pas. Je suis pas senti des joueurs qui se sont pas battus. Donc voilà, c'est le football. Le football, c'est à l'image un peu. Voilà, c'est des valeurs et c'est à l'image de la vie. Donc je suis content qu'on ait réagi comme ça.
Didier, dernière question. Vous aviez parlé qu'il fallait peut-être 6 points pour se sauver définitivement. Là, ça fait 3. On aborde ce tour de relégation avec un moral au beau fixe maintenant.
Ouais, je pense qu'il faut pas se cantonner à ça. J'ai demandé moi dans ça. J'ai dit que c'était un nouveau championnat qui débutait, un championnat de 5 matchs, et l'objectif c'est qu'on essaie de le gagner. Donc ça veut dire que voilà, plus on prendra les points rapidement, plus on sera tranquille, et puis plus la confiance reviendra. Et puis après c'est pas parce que mais il y a encore rien n'est fait. Et puis si jamais ça venait à se faire, il faudra respecter aussi tout le monde.
Didier, merci beaucoup et on vous souhaite tous une bonne suite.
Merci.
Merci.
Voilà pour les réactions à Tourbillon. On a une question de Jonas pour toi, Alex. Barba, doit-il être considéré comme un flop?
Alors moi, personnellement, c'est un flop. Mais j'avais pas beaucoup d'attentes, je ne connaissais pas comme joueur. Je pense qu'on avait beaucoup d'attentes parce qu'il était brandé Serie A. Mais moi, il ne m'a pas du tout convaincu. Je le trouve pas du tout autoritaire dans cette défense. Et je trouve qu'il n'a pas amené de la sérénité. En tout cas, il n'a pas du tout compensé le départ de Schmidt pour moi. Ouais.
Question de Y sur YouTube. Qui de Winterthur, de Getse ou de Yverdon va être ou a le plus de chances d'être relégué? Comme ça, je formule exactement la question.
pour moi Getse, parce que c'est l'équipe qui a la moins bonne dynamique, qui a les moins bonnes intentions de jeu et qui a aussi l'entraîneur qui connaît le moins bien le championnat suisse.
Moi, je te fais le classement en exclusivité. Sion, Getse, Yverdon, Winterthur.
Parfait. Merci beaucoup. On va passer au Lausanne Sport qui s'est imposé hier soir à la Tulière contre IB, qui est bien rentré dans ce Championship Group. C'était l'objectif, hein, ce top 6. Un match que j'ai trouvé, moi, personnellement, courageux de la part des Lausannois qui sont dans l'attitude, je trouve, sur une très, très bonne série.
Oui, et puis ils ont tiré trois fois au but les deux premières minutes et ils sont tout de suite bien entrés dans ce match, malgré le gros coup qu'ils aient pris sur la tête en coupe une semaine avant. Ouais, c'était un super Lausanne Sport, enthousiasmant, qui est sympa, qui est positif, qui fait plaisir à voir. Et c'était une belle soirée de foot, ouais.
On avait vu contre Lugano, une équipe convaincante. À Bâle, évidemment, une équipe convaincante. Contre Sion aussi.
Et là, en plus, ils sortent d'une mauvaise passe parce qu'ils se mettent en difficulté tout seuls par des erreurs individuelles. Mais ça reprend vite, les esprits. On voit comme s'il y avait eu un petit soulagement quand même d'être dans ces six. Et puis que maintenant, au final, c'est que du bonus. Ils ont l'air d'être libérés, ils se font plaisir. Les gens sont contents, le stade est plein.
Ouf, non.
Un peu, alors, vite,
c'était un petit peu. Alors, justement, alors, t'étais pas là hier, ouais. Nous on y était, hein, team. Décevant, 6600 spectateurs, je crois, ouais. Par là autour. Très, très décevant. Alors, oui, il y avait les 20 km de Lausanne. Enfin, il y a toujours un truc, mais il n'y avait pas de vacances, il faisait pas froid. Il y a une équipe qui gagne, il y a une équipe qui est sympa à avoir joué. D'ailleurs, Ludovic Magnan, t'as parlé de ça hier soir à la fin du match.
Ouais, et puis c'était fou parce qu'en fait, Noé Dussain n'a pas célébré son but du 1-1. Et moi, j'avais pas compris pourquoi. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais tu fais la gueule, t'étais pas contre quelqu'un et tout. Je lui ai dit, non, mais parce que j'avais deux spectateurs, il y avait tellement peu de monde dans la tribune latérale qui m'ont insulté à un moment donné. Okay. Je les ai entendus, puis du coup, je voulais leur répondre, quoi. Donc, non, c'était un petit peu le point négatif. Après, moi, je suis content quand même pour Kalisen aussi, parce que c'est un attaquant qui n'est pas efficace, enfin, on ne va pas refaire le débat, mais qui marque comme ça, alors que lui, pour le coup, il n'a jamais triché, toujours tout donné. Je trouve que c'est aussi, il a l'image de cette équipe, c'est-à-dire qu'il est attachant, Kalisen. Ouais. Il n'est pas parfait, mais il est attachant.
Ouais.
Après, vous dites qu'il n'y a personne, mais bon, pour moi, pour avoir vécu le LS des 100 années, je veux dire, 6600, ça reste tout à fait correct. Le LS, il ne faut pas oublier que quand il jouait le titre dans les années, en fin des années 90, il y avait 6000 personnes quand Lausanne avait joué le titre en Ligue nationale. Il y avait 6000 personnes à la Ponteuse. Hein.
T'as raison, il faudrait regarder, je pense. Je n'ai vraiment pas fait ces calculs. Mais je pense qu'en moyenne de spectateurs, ça doit être la meilleure moyenne du LS depuis, je pense, ces années-là, honnêtement.
Ouais. Non, mais bien entendu. Mais là, on a souvent entendu ces Vaudois exigeants, ces Vaudois qui ont toujours un truc à redire, soit parce que l'équipe est pas bien. Là, tu payes ton billet pour voir un gamin d'ici, Alvin Sanchez. Oui, il est blessé, mais même quand il était là, le stade n'était pas toujours plein. Il y a une bonne dynamique, les objectifs sont atteints. Donc oui, moi, je trouve que c'est quand même un point noir dans une très jolie saison pour le moment.
Oui, après, je pense que hier, ce qu'a fait Lausanne face à IB, c'est vraiment ce qu'on attend de leur part sur ces 5 derniers matchs, c'est-à-dire qu'ils sont qualifiés à l'ADER pour ce top 6, et puis ils jouent quand même à visage découvert. Alors oui, il y a eu ces erreurs défensives, Dussain sur le premier but, Mwanga sur le deuxième, mais c'est une équipe qui a pris des risques, qui a été amusante à voir, et évidemment, peut-être qu'il n'y arrivait pas le cadre de public qu'on aurait attendu, que Ludovic Magnan aurait aimé. D'ailleurs, souvent, hein, dans ses interviews d'après-match, il dit, voilà, ça, c'est du Lausanne, comme c'était un style quand même plaisant, assez attractif, hein, surtout si on met en parallèle avec ce que Servette a peut-être fait parfois cette saison, le voisin du lac. Mais en fait, lui, il peut contrôler ce qu'il peut contrôler. Et s'il fait jouer son équipe comme ça, si son équipe, elle offre des rencontres comme hier, des rencontres imparfaites, mais très plaisantes, offensivement, où on prend des risques, il n'y a pas de raison que petit à petit on soigne pas ce mal de tuyère.
Ouais, le LS qui continue de surprendre, qui doit continuer d'ailleurs de surprendre, ça pourrait aller d'ailleurs jusqu'à un ticket pour l'Europe la saison prochaine. Est-ce que le prochain step, c'est avoir peut-être aussi une autre identité, enfin un autre LS? On a souvent reproché à ce Lausanne Sport-là d'avoir un plan de jeu, ce que je trouve fondamentalement pas tout à fait juste, hein, mais est-ce qu'il faut avoir d'autres plans?
Oui, mais tu as quand même des joueurs de ballon au milieu. Tu avais Antoine Bernet qui est parti, Koba Kouandredi qui est arrivé, Olivier Custodio. Tu peux quand même jouer au foot. Mais c'est vrai que c'est assez plaisant d'un point de vue neutre parce que tu as toujours ces ailiers, ça percute, même quand il n'y a pas la qualité de jeu, même quand ça ne passe pas. Il y a toujours du spectacle, en fait. Je me rappelle le match contre Lucerne où Lausanne était horrible défensivement, mais où le match était sympa à suivre. Parce qu'en fait, ils essayent, puis ils sont attachants. Cette équipe-là, elle est attachante.
J'espère justement qu'ils vont réussir à conserver le noyau de cette équipe et puis peut-être se fixer d'autres objectifs avec la base de cette équipe-là. Et puis, comme peut-être pour Servette, rajouter un ou deux éléments pour pouvoir aller chercher officiellement l'Europe l'année prochaine et peut-être prendre les gens avec. Parce que c'est vrai que cette année, ils ont posé les bases d'un projet vraiment chouette et ce serait dommage de voir partir. Alors Alvin, on ne sait pas, mais on a vu déjà partir Bernet. Que voilà, garder les Dussen, garder des mecs auxquels les spectateurs puissent s'identifier sur quelques années, quoi.
Ouais. Après, tu dis en plan B, c'est-à-dire que tu aimerais voir les Lens des fois jouer, je ne sais pas, en 3-5-2
Pas, ou... moi. J'ai souvent, dans mes échanges avec soit d'autres confrères, soit des supporters autour du stade qui disent, voilà, il y a ce plan-là, le pressing haut, et puis c'est tout. Mais moi, je ne suis déjà pas d'accord avec cette théorie-là. Mais non, je ne voudrais pas voir... j'ai vu un LS hier et contre Lugano, où à la fin, Ludovic Magnin enlève Coindredi pour défendre à 5, pour se protéger, ce que je trouve tout à fait normal. Mais non, moi, je prends mon pied et je trouve que quand tu as ton identité de jeu, j'aime bien justement pouvoir dire, dans cette Super League, tu as des équipes que tu reconnais. Bâle, tu reconnais, par exemple, si tu mets des sacs poubelles sur la tête des joueurs puis que tu n'as pas leur maillot avec leur nom derrière, tu reconnais le LS depuis deux saisons, disons.
Ouais, mais il y a des évolutions quand même. Hein. Là, c'est vraiment la première saison où il y a vraiment ces ailiers, ce style un peu Red Bull, Leipzig, où tu vas au pressing et tout. C'était quand même un petit peu différent, je trouve, l'année passée.
Mais on y arrivait, on était sur la route, on était sur le chemin.
Il fait des évolutions de saison en saison, je trouve.
Il voulait ses joueurs, Ludovic Magnin, par exemple, le fameux Tedioku, il n'avait pas l'année passée. Ouais. Et puis, c'est peut-être pour ça aussi qu'il l'attendait autant pour pouvoir déployer son système.
C'est peut-être aussi pour ça que Baldé est revenu, parce que c'était une bonne occasion d'aller chercher un ailier de plus. Tim, ton MVP hier soir à Lausanne?
Comme à Coindredi.
Un petit mot peut-être sur la performance de Letizia, qui a été énorme à Bâle, qui a encore été décisif hier soir avec deux arrêts dans les dernières minutes.
Alors, il a fait oublier le petit épisode contractuel d'il y a quelques mois. Lausanne peut compter sur un excellent gardien et tant mieux que ça se soit résolu comme ça.
On a peut-être vu les deux meilleurs gardiens de Super League hier soir à la Tuilière.
Oui, mais moi j'ai une pensée quand même pour Thomas Castella. Mm-hmm. C'est un fidèle serviteur du club et je ne suis pas sûr que la situation ait été 100% correcte avec lui. Je suis d'accord avec toi, au final c'était bien géré, Carlo Letizia est meilleur que lui, il n'y a rien à dire. Mm-hmm. J'ai une petite pensée quand même pour Thomas Castella. Je n'ai pas les dessous de l'histoire, mais je pense que ça aurait pu être géré de manière un peu plus classe. Voilà comment je l'ai dit.
Puis on n'oubliera pas que Thomas Castella a quand même assisté à la série de tirs au but qui qualifie le LS pour les demi-finales de coupe.
Alors, je ne te dis pas qu'il devait jouer à Bâle, hein. C'est pas ce que je dis. Non. Je dis que ça aurait pu être, toute l'histoire aurait pu être traitée un peu mieux.
Il ne faut pas oublier ça, parce que souvent on peut avoir la mémoire courte, les supporters même plus particulièrement. Je disais, Keller, Letizia, les deux meilleurs gardiens du championnat cette saison?
Clairement, oui, clairement. On a vu la différence IB avec Keller en 2025. Ils se sont relancés aussi dans la course au titre pendant un certain moment grâce à ces parades. Clairement, c'est un gardien d'avenir en plus en Suisse.
Et je vous propose d'écouter Noé Dussen au terme de cette rencontre. On a notamment évoqué avec lui la difficulté d'entrer dans ce Championship Group après l'élimination en Coupe à Bâle.
C'est vrai que c'est pas facile de rentrer dedans. Parce qu'on va pas se mentir, on a accroché le top 6, il y a eu beaucoup d'euphorie. Une demi-finale de coupe qu'on a perdu sur le fil qui fait mal. On rentrait dans ces playoffs pour faire le maximum, mais après on ne sait jamais comment ça va aller.
Il n'y a aucun défenseur central qui a marqué 7 buts, donc félicitations pour ça déjà.
Enfin je marque sur corner, parce que sur corner j'ai pas beaucoup marqué cette année. C'est le premier. On les travaille beaucoup à l'entraînement, on insiste beaucoup. La semaine passée c'est Kevin qui marque, aujourd'hui c'est moi. Donc je suis content, ça fait le 7e but avec celui de la coupe. Donc je pense que c'est bien, il faut que je continue. On n'a plus de pénalty depuis décembre, j'espère qu'ils vont un peu revenir les pénalty pour faire monter le quota de buts.
J'aime bien parce que vous rajoutez le 8e en coupe et il est effectivement très, très important. Alors effectivement, but de Mouanga à Bâle, le vôtre ici, Kalisen également sur balle arrêtée. C'est une vraie force pour le LS.
On va pas le créer trop fort, hein, parce que ça faisait longtemps qu'on n'a plus marqué sur faute d'arrêté, comme j'ai dit, mais aujourd'hui ça nous réussit très très bien.
Un petit mot sur cette célébration, le coup d'œil, c'était pour qui?
C'était parce que j'ai entendu des supporters qui... J'ai entendu des mots bizarres vis-à-vis de moi, donc c'est un peu pour eux, parce que je pense que les êtres humains, c'est possible de passer à côté. Mais j'ai entendu des mauvais mots pour moi, donc je les ai regardés et je pense qu'ils se sont reconnus.
Le plus important, c'est la qualif en Coupe d'Europe pour le LS.
Oui, je pense qu'on avait 5 matchs, maintenant il en reste 4, il y a des finales, on va voir où ça va nous mener. Je pense qu'on a accroché le top 6, il y avait des très bonnes équipes qui sont restées derrière, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, on va voir où ça nous mène, mais on va tout donner.
Mais entre vous, dans le vestiaire, vous en parlez de ce ticket pour la Coupe d'Europe?
Ouais, on veut la Champions League, nous. C'est ça que tu voulais entendre? La Champions League? Non, on verra. Franchement, écoute, on va se donner à fond. On sait bien que le club, voilà, c'est du bonus. Maintenant, à nous à vouloir aller accrocher. Si on arrive à une Conference League, c'est super. Si on arrive à une Europa League et à accrocher des grosses équipes, pourquoi pas? Ce serait bien que la TUR rencontre pour la première fois une Coupe d'Europe ici. Je pense que c'est serait bénéfique pour toute la ville de Lausanne.
Alors, Lausanne, en Champions League, en Conference League ou en Europa League la saison prochaine?
Ouf, Conference League. Conference League.
Ah, Team, Conference League.
Conference League.
Un petit mot sur eBay. J'aimerais surtout vous entendre sur que va devenir eBay maintenant dans ce Championship Group. On sait d'où vient eBay. C'est compliqué de voir cette équipe jouer comme on l'a vu hier soir parce que alors elle est pas morte, elle est pas aux abonnés absents, mais c'est de loin pas un eBay qui personnellement m'a convaincu en tout cas.
Pas du tout, non. Après ils peuvent toujours finir deuxième. Effectivement, ils peuvent espérer rejouer la Champions, mais non, ils ne sont pas convaincants. Même que tu gagnes, dernièrement, ils ne le sont pas.
Mais par rapport au début de saison, c'est déjà un miracle qu'ils soient actuellement dans le
dernier. Mais ils ne peuvent pas se contenter que de se dire, voilà, on est rentré dans ces six, non, et point.
Je pense qu'ils sont partis du principe que, enfin, pour le titre, ça sera compliqué, mais ils sont assez d'accord sur le fait que c'est un peu une saison de transition, et puis qu'ils sont passés un petit peu à côté. Puis le but, c'est de terminer la saison le mieux possible pour préparer la seconde.
Non, alors, l'objectif, c'est clairement d'être deuxième. Hein. Là, il y avait un objectif, c'était d'être dans le top 6. Ils l'ont fait. Et maintenant, Giorgio Contini a une mission, c'est deuxième. Ça, c'est clair. Il veut jouer la Champions.
Ouais. Allez, je vous propose de remporter ce maillot d'eBay, puisqu'on en parle, signé par tous les joueurs du club bernois. Pour le moment, eBay est toujours champion en titre. Il est à gagner. Vous allez sur notre page Instagram, la page de Blue, évidemment. Le concours se termine ce lundi. Bonne chance à vous. Et on a encore... Allez, 8-9 minutes à passer en votre compagnie. On va parler de Champions League parce que c'est vous qui nous l'avez demandé. Dembélé, Yamal, Donnarumma, Paris, Arsenal. On va y aller un peu à la fraîche, les gars. Je vous laisse discuter de ce dont on va parler pour terminer.
Pour être un peu original et pas parler du feu d'artifice qu'on a eu mercredi soir entre le Barça et l'Inter, moi, j'ai beaucoup aimé le Paris Saint-Germain dans sa prestation, dans la gestion de l'avance. Là aussi, c'est un but qui tombe très tôt. Et les semaines, elles passent avec cette équipe de Luis Enrique. Et puis chaque fois, on la sent plus mature. Chaque match, on se dit, purée, est-ce que c'est pas la bonne année? Ils ont chaque fois un truc en plus. Est-ce que c'est pas la bonne année pour aller chercher la Ligue des Champions? Et quand on les a vus, voilà, face à Arsenal, vraiment, c'était pas un match spectaculaire, mais c'était un match. Enfin, ils ont gagné 1-0 à l'Emirates, ils marquent très tôt, et puis ben, ils font le dos rond.
C'est un peu le même genre de match que j'avais vu à Anfield, où Dembélé marque aussi très tôt. C'est le retour, hein. Dembélé marque aussi très tôt et il garde ce score de 1-0 et se qualifie ensuite au pénalty. C'est vraiment très très solide. Puis j'irais même plus loin que ce que vient de dire Giacomo, c'est que on se dit Paris, il y a bien un moment où ils vont se planter parce que c'est saut au PSG de se planter à un moment donné et en fait ça n'arrive jamais.
Ouais, pour moi ils sont impressionnants. Et ce qui m'a vraiment choqué moi, c'est le par exemple au match retour à Liverpool, on pense tous qu'ils vont se prendre une claque parce qu'ils sont pas prêts, parce que Liverpool était une machine de guerre à ce moment-là physiquement, et dans l'impact physique, ils répondent présent, c'est impressionnant. Ils courent la même chose, enfin ils rentrent dans les duels, ils sont et voilà, c'est peut-être ce qui fait la différence avec le Paris cette année, c'est que pour moi athlétiquement ils sont au niveau des meilleurs joueurs des meilleures équipes de première ligue, le championnat dans lequel il y a le plus d'intensité au monde,
quoi. Ce qui est beau, c'est qu'au milieu c'est des profils à l'ex-pache, tu vois, Vitinha, Jornet. C'est des gabarits comme toi, ils ne sont pas des monstres au niveau de la carrure, mais comme tu dis, athlétiquement, physiquement, ça.
Ouais, puis dans la débauche d'énergie, c'est impressionnant.
Mentalement aussi, moi, je pense. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a de la qualité, l'équipe, elle joue bien, mais mentalement, c'est une équipe qui a pris conscience, elle n'a pas à rougir devant personne. La preuve, ils vont à Anfield, ils font un match de patron. Là, ils vont à l'Emirates, ils font un match de patron en Ligue 1, personne ne les bouscule. Alors là, bon, ils font tourner l'effectif, ils se reposent pour la Champions. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier l'aspect mental qui est, selon moi, peut-être l'aspect majeur qui a changé sur cette saison.
Ouais, défaite hein, contre Strasbourg hier en faisant tourner, ce qui n'est pas le cas d'Arsenal qui a perdu contre Bournemouth sur le même score parce qu'Arsenal voit effectivement que derrière, dans le rétro, ça arrive très très fort. Donc il faut se qualifier pour la Champions League, soit en la gagnant, soit en terminant dans les places en championnat. Peut-être encore un dernier mot sur ce PSG-là, qui cette fois-ci va jouer le retour à la maison. Ouais. Est-ce que ça peut changer quelque chose? Je te regarde, Tim, mais peut-être c'est plus une question pour toi, Alex.
Est-ce qu'on a des nouvelles de Dembélé, là, par exemple?
Ça devrait, normalement, pouvoir le faire. Parce qu'effectivement, l'absence de Dembélé pourrait changer énormément de choses, c'est vrai.
Non, moi, je
le sens bien. Et le retour de Partey, pardon. Peut-être ces deux choses-là? collées l'une à l'autre?
Moi, je les sens bien. Alors, j'avoue que j'ai un petit penchant pour le PSG cette année parce que je les trouve encore plus spectaculaires à voir jouer qu'Arsenal, que je trouve un petit peu rigide quand même tactiquement. C'est impressionnant aussi, c'est huilé. Mais je trouve que actuellement, le PSG, avec ses qualités individuelles entre Kvaratskhelia, entre Doué, Dembélé, je trouve ça tellement beau à voir. Vitinha, enfin, c'est exceptionnel que c'est vrai qu'on a envie de les voir aller.
Et personne ne parle de Donnarumma. Ça, c'est assez marrant. Vous avez cité plein de noms, pas de Donnarumma.
Il faut un grand gardien pour gagner une grande compétition. Et puis, il est monté en puissance comme l'équipe. Il a été critiqué. Il y avait même Safonov qui jouait pendant la phase de Ligue, on s'en souvient.
Ça, on n'a pas compris. Hein. À un moment donné où il était blessé. Il était blessé.
Il y avait le débat, à un moment.
Il était blessé. Non, mais il était blessé, puis après.
Toi, t'aimes bien Donnarumma ou ça?
Tu connais pas les antécédents. Hein. Il y a Massimo qui vient mercredi. On va en parler. Alors, moi, je suis pas un monstre fan de Donnarumma parce qu'il n'a pas toujours été décisif dans les moments clés. Mais là, sur cette saison, j'ai strictement rien à dire. Depuis la phase d'élimination directe, il est énorme.
Ah, puis au Bayern, à Munich, il met Matvei Safonov parce qu'il veut que ce soit Safonov titulaire. Donnarumma n'était pas blessé ce match-là.
Non, non, ouais, je parlais plus Arsenal. Arsenal, en phase de,
exactement.
En phase de Ligue, pardon.
Non, mais pour moi, alors, pour moi, le PSG cette année, c'est pas avec le ballon qui m'impressionne. Oui, alors comme toi aussi, c'est son. Parce qu'on parle de Kvara Kvaratskhelia, il est extraordinaire dans ce qu'il fait, dans la manière dont il travaille et tout. Et voilà, le PSG, c'est une équipe, je ne vais pas reparler d'une personne dont j'ai pas envie de parler.
Je voulais te lancer là-dessus.
Mais, si vous voulez.
Il suffisait dans le même bain.
Non, mais... Non,
mais il y a des questions, il y a des remarques Mbappé, etc., évidemment, parce que tout le monde le pense.
Non, mais alors moi, ce que je ne pense pas, ce que je dis, c'est que le problème, ce n'est pas Mbappé, c'est Mbappé qui ne court pas. Mm-hmm. Parce que si ce joueur-là, il fait des efforts, c'est un joueur tellement exceptionnel, bien sûr que tu peux l'avoir s'il court. Mais le Mbappé des dernières années, ou celui qu'on a au Real, pardon, c'est les statistiques qui le disent, ce n'est pas moi, c'est un joueur qui ne court pas. Ouais. Aujourd'hui, pour gagner la Champions League, tu peux pas avoir un joueur qui court pas, je suis désolé.
Il nous reste une minute, j'ai juste le temps de corriger une petite chose parce que évidemment Safonov n'avait pas joué contre Arsenal en face de la Ligue puisque Donnarumma avait fait deux boulettes là, je m'en souviens. Enfin, il avait été un peu abandonné par sa défense puis il avait pris un coup franc de Saka au premier poteau puis il avait manqué une sortie. Yamal, vite fait, il nous reste moins d'une minute. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Yamal cette semaine? Pas original, je t'en supplie.
J'aimerais vérifier sa carte d'identité parce que non, franchement, c'est magnifique. C'est trop bien d'allumer la télé, de voir ce petit qui est insouciant, il est déstabilisant, il est décisif.
Et collectif.
Et collectif. En plus, il a un peu ce storytelling avec ce qu'il fait en dehors du terrain. Il essaye d'être un peu arrogant, mais pas trop. J'aime bien ce personnage aussi qui se construit. Franchement, c'est 17 ans, c'est de la folie.
Avec cette coupe de cheveux à la Super Saiyan, là. Et puis, il est arrogant. Tu peux enlever le un peu. Il est arrogant, mais en plus, ça marche, quoi. C'est ça qui est incroyable.
Ouais, alors, moi, j'ai l'impression que ça fait 4 ans qu'on dit qu'il a 17 ans déjà, un peu.
Ouais.
C'est hallucinant. J'ai l'impression qu'il vieillit pas, en fait. Mais non, mais une performance comme il a fait là, c'était bluffant, quoi. Moi, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu une performance aussi complète ces 10 dernières années.
Ouais.
Il est arrogant, mais sur le terrain, quand il faut faire la passe, quand le jeu commande la passe, il l'a fait. Hein.
Ouais.
Mais ça fait partie de l'extérieur. Ça fait du bien un petit peu.
Absolument. On a tous pris une claque l'autre jour. La suite, c'est évidemment cette semaine, mardi et mercredi. Merci infiniment, les gars, de m'avoir accompagné. C'était encore vraiment génial. Merci à vous pour votre fidélité. 100 épisodes quand même de Match Après Match. Tout ça, ça a commencé avec vous. C'est grâce à vous qu'on est là. On se retrouve dimanche prochain pour le 101e épisode. Ciao !